C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 24 janvier et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de santé publique assez fréquent en France, les troubles du comportement alimentaire, aussi connus sous l'acronyme TCA. Et pour mieux comprendre ces pathologies, nous allons recevoir Marc Toutain, doctorant, membre du laboratoire Comet de l'Université de Caen et de l'INSERM, spécialiste de la question des TCA.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec une information plutôt inquiétante. En France, la recherche médicale est en déclin.
Oui Simon, c'est un constat qui a été fait par le groupe de réflexion Terra Nova. Alain Fischer, membre de ce think tank et président de l'Académie des sciences, était l'invité de France Info la semaine dernière. Il a partagé son inquiétude sur la question du déclin de la recherche en France, notamment comparé aux pays voisins, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Concrètement, la France publie moins ou moins bien que ses voisins. Elle a accès à moins de contrats de recherche qui peuvent être lancés à l'échelle européenne, comme le European Research Council. En cause, le financement de la recherche en France qui est trop modeste, contrairement à l'Allemagne où les efforts financiers du gouvernement portent leurs fruits.
Mais il n'y a pas que des problèmes de finances.
Non, effectivement, tu as raison, il y a déjà un certain désintérêt des jeunes dans le secteur de la science. Être chercheur est moins attractif qu'auparavant, mais ça, c'est plus un problème d'ordre mondial. En France, le véritable problème sont les conditions de travail, des salaires faibles comparés aux pays européens, une administration lourde qui parasite et ralentit les travaux des chercheurs, et parfois des équipements de recherche qui ne permettent pas de travailler dans de bonnes conditions. Bref, l'enseignement supérieur et la recherche ont besoin de plus de moyens et surtout de temps pour que la France reprenne la course à l'innovation. La société spatiale SpaceX et la Fondation des sciences américaines viennent de signer un accord concernant la pollution lumineuse.
Souvent pointée du doigt pour la luminosité de ses satellites Starlink, l'entreprise s'est engagée à régler ce problème et l'accord oblige également SpaceX à couper les émissions radio de ses satellites quand ils survolent les radiotélescopes les plus importants.
Mais concrètement, quel problème pose cette pollution lumineuse ?
Le problème principal, c'est la fin de la nuit noire. On estime même que ces satellites font augmenter la luminosité du ciel de 10% à certaines heures de la nuit, sauf que les astronautes ont besoin de cette nuit noire pour travailler le mieux possible. Or, ces lumières venant des satellites éblouissent les observatoires astronomiques. Elles sont parfois vues comme des modèles écologiques, les voitures autonomes ne le seraient peut-être pas tant que ça.
Oui, vous avez sûrement déjà vu des reportages de ces voitures qui se conduisent toutes seules, sans aucune intervention humaine, avec quand même une petite sueur au front pour les passagers. Mais ces voitures cachent en fait un autre problème, celui de rejeter des quantités astronomiques de gaz à effet de serre. C'est un rapport de deux chercheuses du MIT aux États-Unis qui a pointé le problème. Les voitures autonomes sont en fait équipées d'une dizaine d'équipements technologiques pour fonctionner, des caméras, des lasers, des radars, des réseaux de neurones pour la prise de décision, tout cela demande une énorme quantité d'énergie. Selon certains calculs, d'ici 2050, 1 milliard de voitures pourraient conduire toutes seules et consommer 0,84 kW par jour, soit l'équivalent de tous les data centers du monde.
Et aujourd'hui en France, où est-ce qu'on en est avec ces voitures ?
Alors pour l'instant, seules les voitures de niveau 3 peuvent circuler. Le niveau correspond simplement au degré d'autonomie de la voiture, sachant que le maximum est 5. Au niveau 3, vous pouvez tranquillement lâcher le volant sur le périph' par exemple, et la voiture reste sur sa voie. Aujourd'hui, la limitation de vitesse pour cette innovation est de 60 km/h, mais la loi devrait bientôt changer pour la rehausser à 130. Toujours dans une optique de course à l'innovation, la France souhaite réglementer ses outils pour accueillir au plus vite les voitures autonomes sur ses routes. Selon l'étude du MIT, il est nécessaire de se diriger vers des énergies décarbonées pour éviter une explosion des émissions à effet de serre que pourraient provoquer ces voitures. C'est une grande prouesse technique. Des scientifiques viennent de réussir à dévier la trajectoire de la foudre grâce à un laser.
Et oui, c'est une première mondiale réalisée par une équipe de chercheurs franco-germano-suisses. Ces derniers se sont rendus au sommet du mont Sentis, qui n'est autre que le site le plus foudroyé d'Europe, et sont parvenus, grâce à un laser spécialement conçu pour l'expérience, à dévier 4 éclairs sur une distance allant de 50 à 70 mètres. Alors je parlais de première mondiale tout à l'heure, mais en fait pas vraiment, car l'expérience a déjà été effectuée, mais c'était en laboratoire et avec des éclairs artificiels.
Mais alors, quelle est l'utilité d'une telle expérience ?
La motivation principale de ce genre d'expérience, c'est de pouvoir, à terme, améliorer les systèmes de protection contre la foudre sur des grandes infrastructures, comme par exemple les pas de tir des fusées ou encore les aéroports. Et dernière information absolument capitale pour la science, le langage des bébés est en fait très important.
Effectivement, vous parlez peut-être un peu différemment à votre nourrisson qu'à votre conjoint, et ça peut se comprendre. Vous allez plus dans les aigus, dans les graves, vous allongez les voyelles. Eh bien, sachez-le, mais ce langage est très important. Une équipe de chercheurs internationale a rassemblé plus de 90 études sur le sujet. Ce qui leur sort est que toutes les langues utilisent ce langage bébé, et cela est primordial pour l'apprentissage d'une langue. Alors, selon les langues, les accentuations change. En français, en anglais, on accentue les aigus. En mandarin, ce sont les voyelles qui sont renforcées. Et dans toutes les langues, on ralentit notre débit de parole.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Ce sont des pathologies qui touchent environ 10% de la population française si l'on en croit la Fondation pour la Recherche Médicale. Les TCA, troubles du comportement alimentaire, peuvent prendre différentes formes et sont souvent difficiles à appréhender.
Pour y voir plus clair, nous recevons Marc Toutain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant, membre du laboratoire Comet de l'Université de Caen, spécialiste de la question des TCA.
Et pour commencer, est-ce qu'on pourrait poser les bases ? Comment est-ce qu'on peut définir les troubles du comportement alimentaire ?
Alors, il y a différentes façons de les définir. Je pense que la plus universelle serait de dire qu'il s'agit d'une altération de notre comportement par rapport à notre alimentation qui devient délétère pour notre santé.
Est-ce qu'il y a différents types de TCA ?
Il y a différents types de TCA, les trois majeurs et les plus connus sont notamment l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie.
Et ils sont différenciés comment ces trois pathologies ?
L'anorexie mentale est finalement un TCA qui tient de la restriction alimentaire, la boulimie plutôt de crise hyperphagique, de crise boulimique. On parle crise hyperphagie, en fait il s'agit de périodes où on va beaucoup s'alimenter. C'est les classiques clichés des personnes qui vont ouvrir leur frigo et manger des tablettes de beurre, et puis ensuite s'en vouloir énormément par la suite, et souvent procéder à des comportements comme des vomissements volontaires ou des prises de laxatifs ou d'autres produits qui vont leur permettre de compenser ce comportement abusif. Et puis ensuite, on a l'hyperphagie seule qui, elle, est depuis peu de temps un TCA à part entière. Avant, c'était dans la boulimie, maintenant c'est à part. C'est l'hyperphagie, c'est juste le comportement hyperphagique, mais sans compensation, comportement compensatoire derrière. Donc pas de vomissements, pas de prise de laxatif, ou alors pas d'activité physique à outrance ou d'autres comportements qui pourraient venir compenser cette prise alimentaire.
Le troisième est vraiment du coup axé sur la nourriture en tant que telle, il n'y a pas...
Oui, alors il y a toujours autour des TCA une multitude de troubles psychologiques, physiologiques parfois, qui gravitent autour des TCA, mais sans être forcément le critère diagnostique principal du TCA.
Est-ce qu'il y a des troubles qui sont moins fréquents que d'autres, des troubles plus rares ?
Oui, en effet. Alors le plus rare, et heureusement, c'est l'anorexie. L'anorexie mentale est le trouble le plus rare. Malgré tout, il touche quand même jusqu'à 4% des jeunes femmes en France, en Europe.
Heureusement, parce qu'il est plus dangereux ?
Tout à fait. En fait, c'est une pathologie qui a le niveau de mortalité le plus élevé dans les maladies psychiatriques après les addictions aux substances psychoactives pouvant être mortelles.
Est-ce qu'on peut différencier des symptômes physiques et des symptômes psychologiques dans ces TCA ?
Oui, tout à fait. Alors, on peut prendre l'exemple encore de l'anorexie. Donc, dans l'anorexie, on a des symptômes qui sont purement physiques, visibles. C'est notamment le poids. Le poids va drastiquement diminuer dans l'anorexie. Et on va avoir toute une cascade de symptômes physiologiques qui vont suivre finalement cette perte de poids. Évidemment, on n'est pas sans savoir que quand on perd beaucoup de poids, quand on arrête de manger, on a plein de problèmes qui vont arriver derrière. On a l'organisme qui va réagir à cette dette calorique et nutritive diverse et variée, puisque lorsqu'on mange plus, on n'alimente plus la machine, et ça pose des gros problèmes au niveau des organes, au niveau des réactions hormonales, au niveau du cerveau également. On a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt côté physio. Après, dans les symptômes plutôt psy, on va avoir des choses spécifiques, notamment dans les critères diagnostiques. On va avoir une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, grosse, puisque ça touche plus particulièrement les femmes. Hein, 9 fois sur 10, c'est des femmes. Donc cette peur-là, elle est vraiment intense. Hein, c'est une peur vraiment intense de devenir... obèse, gros, prendre du poids, même pas, voilà. Et on a aussi une déformation de l'image de soi et de l'image qu'on voit, que ces personnes voient dans le miroir. Voilà. Même si c'est véridique, elles sont très minces, parfois squelettiques, hélas, elles, dans le miroir, ne se voient pas comme ça. Donc c'est une déformation de leur cerveau qui leur renvoie une image qui est déformée.
À la base, quelles sont les causes de ces troubles ?
Alors, à la base, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire naître, se développer un TCA chez une personne. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Hein. Les facteurs sont très nombreux. Alors, si on reste encore une fois sur l'anorexie, on a des facteurs qui peuvent être génétiques. Il y a des choses qui ont été montrées à ce niveau-là. Certains gènes sont plus enclins à déclencher de l'anorexie, mais encore, c'est pas forcément systématique, mais ça peut. Alors au niveau des gènes, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, mais les gènes sont présents dans l'organisme. C'est pas parce qu'ils sont présents qu'ils vont se déclencher et s'activer de la même manière chez chaque individu. On peut avoir très bien des gènes qu'on partage et qui sont dangereux pour plein de maladies, mais qu'on va pas déclencher nous, qu'on va pas activer. Il faut que ça soit activé d'une certaine manière, une réponse de l'organisme, une adaptation de celui-ci. Donc il y a plein de gens qui peuvent avoir des gènes qui sont facilitateurs de l'anorexie, par exemple, mais qui ne vont pas se déclencher parce que l'environnement n'est pas propice ou parce que notre développement a fait que ça s'est pas déclenché et que ça se déclenchera pas, ou pas, hein, ça pourra se déclencher aussi. Alors, ce qui donc dégène, ça c'est une première raison qui peut faciliter l'apparition de TCA. On a d'autres choses, c'est évidemment les traumatismes psychologiques. Alors les traumatismes psychologiques, c'est 9 fois sur 10 présents, voire 10 fois sur 10 présents dans les TCA. On les trouve pas toujours, mais souvent ils sont là. On peut avoir des choses très horribles, comme des viols, comme des agressions, comme plein d'autres choses, mais des choses plus quotidiennes, plus banales, on va dire, comme des divorces, comme des parents qui ont une relation difficile, ou alors un contexte familial qui est difficile, que ce soit avec les parents, avec les frères, avec les sœurs parfois, ou avec la famille un peu plus éloignée, pas forcément le noyau, mais toutes ces choses-là peuvent aider et déclencher des TCA. Alors après, il faut quand même...
Même quand il n'y a pas le gène facilitateur
Bien sûr, même quand il n'y a pas un gène facilitateur, voilà. Après, il ne faut pas oublier que les TCA sont une forme de... Donc c'est une maladie psychiatrique, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Les TCA sont des maladies psychiatriques, et quand ils se déclenchent, c'est aussi pour pallier à une situation qui génère peut-être trop de mal-être. En fait, les TCA, c'est une... On pourrait les résumer comme ça, mais c'est une forme de contrôle qui vient nous rassurer, une forme de contrôle extrême, voilà, qui devient délétère pour la santé, comme beaucoup de troubles psychiatriques, finalement, et comme les addictions aussi, comme ce genre de choses. C'est à un moment, une personne qui va trouver un moyen, au travers de son comportement alimentaire, de se rassurer.
Et au niveau des conséquences, à court et même à long terme, ça peut ressembler à quoi ? Jusqu'où ça peut aller ?
Je suis juste ce que j'étais en train de dire. Donc un moyen de se rassurer, bon, ça va être inconscient, et ensuite ça va se développer au fur et à mesure que ce comportement va se répéter. Donc pour rejoindre la question posée à l'instant, si on continue de perpétuer ce comportement, ça va avoir des impacts à la fois psychologiques et physiologiques, les plus graves étant les impacts physiologiques, puisque, en tout cas dans le court terme, puisqu'ils vont aller jusqu'à la mort, notamment dans l'anorexie mentale, où il y a beaucoup de mortalité liée soit au suicide, soit à l'inanition, c'est-à-dire à l'absence d'alimentation. Ce qui est assez logique, hein, parce que des fois on a des patientes qui arrivent et ne font plus que 30 kilos en hospitalisation, on n'arrive pas à rattraper les choses et elles finissent par décéder. Et quand on tire trop sur la corde, ben, à la fois, voilà, il y a un moment, c'est fatal. Après, le suicide rejoint, le risque de suicide est grand et il rejoint les troubles psychologiques. Donc là, on va avoir un mal-être tellement profond qu'on va aller jusqu'à l'extrême du suicide. Mais au-delà de ça, on va avoir plein d'autres complications qui vont être bien plus soft, heureusement, qui vont finalement être de l'angoisse quotidienne, de l'anxiété, des troubles sociaux, des problèmes du quotidien. C'est très difficile pour, par exemple, une personne qui souffre d'anorexie d'aller manger au restaurant. Tout simplement, hein, parce que sa maladie fait que manger pour elle, c'est très compliqué. C'est pareil pour les personnes qui sont boulimiques. En fait, on va avoir beaucoup de culpabilité au quotidien. Dès qu'il va y avoir une crise, on va descendre dans des niveaux de dépression très élevés. Donc c'est une maladie psychiatrique qui va avoir plein d'effets comme ça.
Et vous l'avez dit, les femmes sont plus touchées que les hommes. Est-ce qu'il y a un âge où on est plus touché par les TCA, on est plus enclin à avoir ce type de trouble ?
Oui, alors après ça va dépendre du TCA dont on parle. L'anorexie notamment, on va être plutôt sur la tranche des 15-25 ans, où ça va être vraiment le pic. Là où on va avoir beaucoup d'anorexie qui vont se déclarer, mais aussi beaucoup d'anorexie qui vont se résoudre. Passer cette période, en général, si on a toujours une anorexie mentale, ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de rechutes et l'hospitalisation, et l'anorexie va peut-être rester tout le temps dans la vie de la personne. Après, c'est pas parce qu'on a une anorexie mentale qu'on peut pas vivre une vie presque normale, entre guillemets, hein, mais voilà, ça se gère, ça s'apprend, et puis c'est comme toute maladie psychiatrique ou autre maladie, il faut vivre avec, il faut en être conscient, et puis ensuite réussir à s'adapter et à vivre. Ensuite, la boulimie, c'est un peu plus différent. On est sur des périodes qui apparaissent un peu plus tard, plutôt autour des 20 ans jusqu'à 30 ans. C'est à peu près la même chose, hein.
C'est une maladie qu'on pourrait qualifier de maladie moderne, ou est-ce que vraiment on peut la dater à depuis toujours, finalement ?
Alors, c'est une maladie, vous parlez peut-être de l'anorexie, ou des TCA en général.
TCA en général.
Alors, c'est des maladies, du coup, oui, les TCA, c'est un spectre assez large, comme un peu le spectre autistique, mais c'est un spectre de maladies psychiatriques, où on va du petit TCA au gros TCA, qui est pour moi l'anorexie, après ça peut être autre chose pour d'autres. Dans l'histoire, on en a eu. Il y a eu des écrits, des faits relatés de personnes qui souffrait d'anorexie surtout. Je m'y connais un peu moins en fait historique sur la boulimie. Au niveau de l'anorexie, on avait des choses, notamment sur des moines, hein, qui faisaient beaucoup de restrictions alimentaires, qui pouvaient s'apparenter à de l'anorexie, et d'hyperactivité physique d'ailleurs. On avait aussi ça avec des grandes figures de la royauté ou l'impérialité, de femmes qui s'alimentaient très peu, qui ne mangeaient que certains aliments et pas d'autres. Vraiment une sélection très drastique. Ce sont les seuls exemples qui me viennent, mais en tout cas, il y a pas mal d'écrits. Après, c'est pas mon domaine de compétence de prédilection.
Pour rester sur la boulimie et l'anorexie, est-ce qu'il y a différentes phases ou est-ce que ça peut être extrême dès l'apparition des premiers symptômes des troubles ?
C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de chaque personne. Après, normalement, c'est plutôt quelque chose qui s'installe insidieusement, notamment pour l'anorexie. Ça commence petit à petit et en fait, le trouble s'aggrave de plus en plus.
On continue de parler des TCA avec vous dans quelques instants, mais avant, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Chaz et son titre « Come on over ». À tout de suite sur Radio Phoenix. Prince, looking at me like you want affection. Come on over and bite my
À l'instant, c'était Common Over de Chaz sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission C'est pas faux. Et on reprend notre conversation avec Marc Toutain sur les troubles du comportement alimentaire.
Quels sont les traitements qui existent aujourd'hui face au TCA? Est-ce qu'on a des traitements médicamenteux ou au niveau psychologique?
Alors, la prise en charge des TCA est multidisciplinaire. Alors, on va voir pour le TCA en lui-même, les médicaments ne seront pas appropriés. Ciblé pour le TCA, en fait, ça va surtout être pour les troubles qui vont être autour. Les troubles, notamment psy, par exemple, si on a trop d'anxiété ou une dépression sévère, on va plutôt essayer de médicamenter, solutionner ces aspects-là dans un premier temps avec de la médication, pour pouvoir agir efficacement ensuite derrière, puisque sinon la prise en charge est très compliquée. Ensuite, on va aussi avoir évidemment une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge somatique, c'est-à-dire qu'on va surveiller l'état de santé de la personne, la supplémenter soit par intraveineuse ou des choses comme ça pour remettre en marche son organisme, l'aider à aller mieux, en tout cas à ce niveau-là, au niveau de l'homéostasie du corps, au niveau de son équilibre. Ensuite, on va aussi avoir plein de prises en charge autour, notamment les psychothérapies, qui sont à part entière dans la prise en charge des TCA, qui marchent très bien. Les psychothérapies familiales, les psychothérapies de groupe. Après, on va avoir plein d'autres psychothérapies possibles, cognitives ou comportementales, des choses comme ça. Ça va vraiment être dépendant de l'expertise de l'hôpital qui va accueillir, de la structure qui accueille. Chaque structure va développer sa prise en charge multidisciplinaire. On aura toujours une prise en charge, en général, si. Toujours une prise en charge nutritionnelle, ça c'est sûr. Somatique, évidemment. On est quand même dans une prise en charge qui est hospitalière, médicale. Et au-delà des médicaments qu'on va pouvoir donner pour aider au niveau de l'état psychologique, on va avoir ensuite des prises en charge complémentaires, thérapeutiques, non médicamenteuses. Alors à ce niveau-là, c'est pareil, ça va être très dépendant des structures, des hôpitaux. On va pouvoir avoir une batterie, un florilège de thérapies complémentaires. On peut avoir des choses très basiques. On peut avoir des choses comme de la couture, de l'art-thérapie, de la zoothérapie, on peut, équithérapie, thérapie animale, etc. On peut avoir des choses aussi comme de l'activité physique adaptée. Alors là, ça va prendre différentes formes selon les personnes, les professionnels. On peut avoir également d'autres choses comme de la sophrologie, de la méditation, beaucoup de choses comme ça qui vont aider.
Justement, vous avez parlé d'activité physique, qui fait partie de votre thématique de recherche. À quoi ressemble un peu l'accompagnement que vous faites des personnes qui ont ces troubles?
Alors, l'activité physique, en effet, fait partie parfois du chemin de la prise en charge des TCA. C'est pas systématique puisque c'est pas du tout obligatoire. Souvent c'est un choix de l'équipe médicale, du corps, des médecins et puis du staff. Quand il y en a, ça peut prendre différentes formes. Moi personnellement, dans mes recherches, et mais c'est actuellement en cours d'ailleurs, je fais une prise en charge en activité physique qu'on appelle adaptée, donc de l'APA. L'activité physique adaptée, c'est tout simplement de l'activité physique qu'on adapte à un public spécifique, souvent vulnérable, comme par exemple les personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Donc moi dans ma prise en charge, ce que j'utilise c'est du renforcement musculaire, où on va essayer de ne pas aller dans une pratique plus addictive et calorico-dépensière, ce qui n'est pas du tout scientifique comme terme, mais je voudrais dire...
Oui, le but n'étant pas de refaire perdre plus de poids.
Voilà, ne pas dépenser trop de calories, mais plutôt essayer de stimuler les muscles pour qu'ils prennent en masse musculaire, pourquoi pas, même si ça va surtout dépendre de leur nutrition derrière, mais on espère qu'ils vont bien se nourrir. Et ensuite, du yoga. Voilà. Le yoga, qui est une activité physique, une mind-body practices, c'est une pratique corps-esprit, on dit en français, qui a montré beaucoup d'effets bénéfiques dans ce public-là et dans de nombreux publics. Qui est une activité plutôt soft, qui permet néanmoins de se renforcer musculairement, d'améliorer beaucoup de composantes au niveau musculo-squelettique, et ça c'est très intéressant, et aussi d'avoir un aspect psycho très, très positif et d'améliorer les choses à ce niveau-là.
Est-ce qu'avec tous ces accompagnements, qu'ils soient sportifs ou thérapie avec les animaux, on arrive dans la plupart des cas à vraiment définitivement guérir des TCA, ou est-ce qu'il y a quand même très souvent des rechutes et c'est finalement une maladie à vie ?
Alors, il y a beaucoup de rechutes. D'une manière générale, ce ne sont pas des maladies à vie. Heureusement, dans la plupart des cas, on arrive à avoir des bons résultats. Mais il arrive que, en effet, certaines patientes n'arrivent jamais à s'en défaire, ou patients, n'arrivent jamais à s'en défaire et doivent vivre avec toute leur vie. Alors ça va être des vies ponctuées de rechutes, de retour à l'hôpital, de travail sur soi, de lutte perpétuelle contre leur maladie. C'est pas une vie facile, évidemment, mais ils arrivent à vivre quand même, à avoir un travail, une vie sociale, une vie familiale, à être heureux de temps en temps, je l'espère pour eux. Mais en effet, c'est compliqué. La durée, en général, moyenne d'hospitalisation, pour l'anorexie en tout cas, dans mes souvenirs, est à peu près de 5 ans, ponctuée de 3 à 5 rechutes. Mais en effet, c'est pas parce qu'une patiente sort de l'hôpital qu'elle va pas y retourner.
Pour parler un peu de la recherche sur le sujet des TCA, est-ce qu'on connaît tout de ce trouble ou encore il y a encore des zones d'ombre ?
On ne connaît pas du tout de ce trouble, il y a énormément de zones d'ombre, en effet. Ce sont des maladies qui sont sous-étudiées, j'ai envie de dire, sous-représentées aussi. On en entend parler, mais pas tant par rapport à d'autres maladies. Pourtant, elles touchent beaucoup de personnes. Au niveau de la recherche, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'appels à projets, de financements qui viennent spécifiquement viser les TCA. Néanmoins, la recherche et la santé avancent de plus en plus dans la psychiatrie, et ça c'est positif. On a plus de reconnaissance au niveau de ce corps de la médecine, et ça touche de plus en plus les personnes de la population générale, c'est de plus en plus connu, de plus en plus compris et de plus en plus envisagé et en tout cas pensé comme une maladie à part entière et non juste une passade parce que vous avez un coup de mou ou autre chose comme ça. Ce qui a pu être un peu la mentalité pendant un moment.
Et les avancées de la recherche aujourd'hui, est-ce qu'ils permettent de faire une bonne prévention sur ces maladies ?
Alors la recherche, oui. Il y a des travaux quand même qui sont menés là-dessus, qui sont très intéressants, qui portent leurs fruits. Après, la mise en place sur le terrain est plus compliquée, puisque après, hors recherche, eh bien, il faut les personnes disponibles pour ça, il faut les payer, il faut les encadrer, il faut les rémunérer, il faut mettre en place tout ça. Et ça, après, c'est une autre paire de manches.
Vous avez parlé de manque parfois de recherche sur le sujet. Est-ce que du coup ça aboutit à des tabous sur les TCA et qui empêchent les gens d'être traités ou d'être bien traités ?
Alors, je dirais pas que ça débouche sur des tabous. En tout cas, pas la recherche. Par contre, ce qui empêche parfois aux personnes d'être bien traitées, mais je crois que ça ne se limite pas au TCA, c'est le manque d'offres de soins et de professionnels compétents sur ce trouble psychiatrique, et aussi les places en hôpital, en structure médicale, qui sont très rares.
Quand on a un proche autour de soi qui est atteint de TCA, quelle est la meilleure attitude à adopter? Comment l'accompagner au mieux sans forcément le brusquer?
Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, car on est sur une question très, très spécifique à chaque personne, chaque patient, chacun son histoire. On ne peut pas donner de recommandations littérales et générales par rapport à ça. Ce qu'il faut toujours, c'est être bienveillant et savoir orienter la personne vers des professionnels qu'elle écoutera. Voilà, parce que après, on peut faire tous les efforts du monde. Parfois, on se brouille avec une personne pour lui dire « tu ne vas pas bien » et ça fait l'effet inverse. Donc voilà, c'est toujours délicat. En plus, des fois, on veut pas trop se mouiller puisqu'on tient à la personne, on veut pas la perdre, hein, évidemment. Donc ce qui marche le plus souvent, c'est de l'orienter vers quelqu'un, de soit un professionnel, soit directement, soit une personne qui s'y connaît ou qui a de l'expérience dans le sujet et qui pourra l'orienter et trouver les mots pour cette personne-là, puisque c'est des maladies où il y a beaucoup, beaucoup de déni. Le déni est vraiment...
déni très, des patients très, ou de l'entourage?
Des patients. De l'entourage, un peu, évidemment. Après, une fois qu'on s'en rend compte, mais les patients, les personnes qui souffrent de TCA, même après avoir été hospitalisé, parfois, après la première, même parfois la deuxième hospitalisation, ne considèrent pas qu'ils ont une maladie forcément, ou ils sont totalement dans le déni. Ou alors ils croient qu'ils ne l'ont plus, alors qu'ils repartent dans leur travers, dans des comportements réellement problématiques.
D'ailleurs, vous avez lancé récemment un sondage auprès des étudiants de l'Université de Caen sur leurs habitudes alimentaires et sportives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sondage et l'objectif?
Oui, alors, il n'y a pas longtemps, c'est une étude qu'on a créée avec Antoine Gauthier, mon directeur de thèse, Pascal Lecomte, ma co-encadrante de thèse, et Jérémy Lefort-Bénard, qui est également chercheur, qui était chercheur à Comet et qui maintenant est en Bretagne, à l'INRIA de Rennes. On a lancé cette enquête-là sur la prévention primaire des TCA, puisqu'on est sur une population étudiante qui finalement rentre dans la tranche d'âge la plus à risque de troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans, donc les étudiants en général entre 17 et 25 ans, hein. Donc on est pile dedans, et c'est souvent là que ça se déclenche. Alors, l'université, la première année, ce genre de choses, c'est source de beaucoup, beaucoup de troubles psychologiques, de stress, d'anxiété, de nouveaux défis, de nouvelles vies, de vérités qui se dressent et qui éclatent, hein, aux yeux de tous, et très, très générateur de TCA ou d'autres troubles psy. Donc on s'est intéressé à cette population et on a fait finalement une enquête qui regroupe des questionnaires scientifiquement validés, dont un qui nous permet d'avoir un peu le niveau de risque de TCA que vous avez, sans être un diagnostic formel, évidemment. Et puis d'autres questionnaires qui interrogent des dimensions psy qui sont intéressantes au regard de la littérature, donc soit des dimensions psychologiques qui sont beaucoup étudiées, qui ont beaucoup de preuves scientifiques comme étant liées au TCA, ce qui est intéressant pour confirmer ou infirmer ces relations et quantifier un peu ce risque, à quand en tout cas. Et puis ensuite, des dimensions qui sont beaucoup moins étudiées ou pas du tout étudiées, notamment au travers de l'activité physique et notre relation avec elle. Nous, on s'intéresse surtout aux motivations de pratique. Qu'est-ce qui nous motive à pratiquer et est-ce que c'est lié avec un risque de TCA élevé? Et quelle motivation? Pourquoi vous pratiquez? Et quelle motivation est liée à un risque de TCA qui pourrait finalement aiguiller des personnes plus tard sur tiens, cette personne-là, je pense qu'elle a peut-être un TCA. Et en plus, sa motivation, elle fit bien avec un profil à risque. Voilà. L'idée, c'est ça. On a ça, on a aussi quel type d'activité physique est pratiquée, combien de temps, et on a un questionnaire aussi sur la dépendance à l'activité physique, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les TCA, anorexie et boulimie, surtout anorexie. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont modernes, dont le machine learning, donc faire des analyses poussées qui vont nous permettre de trouver et définir des profils à risque, et ensuite les utiliser pour faire une meilleure prévention des TCA.
Et vous avez déjà des premières bribes de résultats, des constats ?
Alors, sur l'étude Studit, sur les étudiants... Studit, on n'a pas encore traité les données puisqu'on en récolte encore. Par contre, on a fait une étude qui est similaire, sauf sur quelques questionnaires, puisque c'est pas la même population, avec des collégiens et des lycéens. Donc là, public adolescent, on est sur 10 à 20 ans en général. Et là, on a trouvé des choses très intéressantes qui font l'objet de conférences, dans pas longtemps d'ailleurs, à Nantes, aux journées d'études francophones en activité physique adaptée. Nous allons présenter ça sur une communication orale, ça sera fin mars. Et on va présenter nos résultats. Nos résultats ont montré des choses sur la motivation, des choses qui ne sont pas toujours évidentes, on va dire. Alors sur la motivation, ce qu'on a vu, c'est que finalement, quand on a une motivation qui est plutôt orientée vers le fitness, en termes anglophones, c'est-à-dire sur la force, s'attacher à être puissant, athlétique, plutôt musclé, en fait, eh bien ça va plutôt avoir tendance à nous protéger. Ah si, c'est un type de motivation qui va plutôt nous protéger. À l'inverse, on a une motivation qui va plutôt être délétère, c'est l'immotivation sur l'apparence. L'apparence uniquement. Donc par exemple, si je pratique pour être plus svelte, pour être plus beau, pour être plus attirant, pour être... toutes ces motivations-là, on va être sur des motivations qui vont plutôt être délétères, qui vont plutôt avoir tendance à nous envoyer vers des comportements à risque de TCA. On va aussi avoir des choses qui sont plus classiques avec une insatisfaction corporelle liée à l'apparence et au poids. Bon, ce qu'on retrouve classiquement dans les TCA, c'est ce qui est assez logique finalement. Et d'autres petites choses comme ça, mais pour avoir plus de précision, il faudra aller voir le résumé ou pourquoi pas la communication orale ou l'article qui en découlera plus tard.
Merci beaucoup Marc Toutain d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes doctorant, membre du laboratoire Comet de l'Université de Caen et de l'INSERM, spécialiste des troubles du comportement alimentaire.
C'est à vous. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme qui nous propose deux activités cette semaine en partenariat avec le groupe ornithologique normand. Rendez-vous d'abord demain à 14h pour un atelier de fabrication de tampons sur le thème des oiseaux à l'aide des machines numériques du Fab Lab. L'autre rendez-vous est prévu pour ce samedi à 14h où vous êtes invité à participer au grand comptage des oiseaux de jardin, une occasion d'apprendre à identifier les différentes espèces présentes en Normandie. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à ces ateliers, rendez-vous sur le site ledome.info.
Et comme à chaque émission de C'est pas faux, on vous propose un reportage. Cette semaine, attardons-nous sur la série de documentaires de LCP, Les mensonges de l'histoire. Au programme jeudi soir, la publicité de la cigarette dans les années 50. Alors qu'au même moment, des rapports scientifiques ont démontré les effets néfastes du tabagisme, les pubs de médecins à la télé qui font la promotion de la cigarette s'enchaînent. Comment expliquer cela ? Pression et manipulation, tabac, l'industrie du mensonge, c'est jeudi soir à 21h sur LCP.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.